Vous écoutez On lit pour vous.
Quelle odeur à notre passé? Un texte de Cecilia Bembibre Jacobo, paru le 7 juillet 2026 dans le courrier de l'UNESCO. Contrairement à la vue, sens associé à la raison, le savoir olfactif a longtemps été négligé et très peu protégé. Depuis quelques années, des chercheurs s'emploient à documenter et valoriser ce patrimoine fragile et, dans certains cas, à faire renaître des odeurs disparues. Alors que la ville s'éveille à peine, elles sont déjà debout, dans des cuisines encore fraîches de la nuit, les jupes blanches et les foulards soigneusement préparés pour la journée. De larges bassines émaillées émanent les senteurs des herbes aromatiques macérées et infusées par les femmes Bayana, selon une combinaison précise établie depuis plus de 2 siècles. Dehors, les premières fanfares de la Lavagem do Bonfim, l'une des plus grandes célébrations populaires du Brésil, commencent à résonner dans les rues de Salvador de Bahia, au nord-est du pays. Les femmes écrasent les feuilles entre leurs mains pour libérer des senteurs de résine, de menthe aux vapeurs sacrées. C'est l'agua des queiros, l'eau des parfums. Ce jour-là, des milliers de personnes marcheront vers l'église de Bonfim dans une marée de vêtements blancs. La messe catholique et le rituel afro-brésilien se rencontrent sur cette colline où l'on honore à la fois une image du Christ apportée du Portugal en 1745 et la divinité Oxalá, issue de la tradition spirituelle africaine. Les Bayana, descendantes de femmes réduites en esclavage qui avaient acquis leur liberté en vendant de la nourriture et des herbes, verseront cette eau parfumée sur les marches et sur la tête des pèlerins au sommet de la colline en chantant « Do colo da mãe aos braços do pai »« Des bras de la mère à ceux du père ». Mais les grands-mères Bayana redoutent que ces rituels s'arrêtent avec leur génération. Le paysage lui-même a changé. Les herbes utilisées dans leur mélange proviennent d'une partie de la forêt atlantique qui était 2 fois plus vaste dans leur jeunesse. Pour éviter que ce patrimoine ne s'évanouisse pour toujours, les chercheurs du projet Sentinelle documente depuis 2024 les senteurs des herbes écrasées et de l'encens avant d'analyser les composés volatiles qu'ils libèrent. Cette initiative pan-européenne associe analyse chimique et description empirique des femmes afin de documenter les senteurs de la Lavagem et de mesurer les changements à venir. L'urgence est réelle. Le patrimoine olfactif est parmi les plus fragiles. Invisible sur les photographies, il s'évapore entre 2 générations. Les changements climatiques et socio-économiques modifient les paysages olfactifs trop rapidement pour être documentés, et la transmission d'une génération à l'autre ne se fait pas facilement. Un patrimoine en vue. Aujourd'hui, les musées et les pratiques de conservation privilégient ce qui est à portée de regard. Les monuments sont observés, les objets exposés derrière des vitrines. Le patrimoine immatériel est documenté à travers ce qui peut être filmé ou enregistré. L'odorat est rarement pris en compte et presque jamais protégé. Cela reflète une hiérarchie sensorielle née avec la modernité. À partir du XVIIIe siècle, la vue a été de plus en plus associée à la raison et au savoir, tandis que l'odorat était relégué au corps, au domestique, à l'éphémère et à l'irrationnel. Dans Smell and the Past, l'historien William Tollett parle d'une vision oculocentrée de l'histoire qui façonne encore aujourd'hui l'approche qui prévaut dans les musées, les archives et les politiques culturelles. Nous ne prenons souvent conscience des odeurs, note-t-il, qu'après leur disparition ou leur altération. Pourtant, de nombreuses formes de patrimoine sont indissociables des odeurs. Certaines sont des objets conçus pour parfumer le corps ou l'air. Encens, pommes de senteur, gants parfumés, herbes médicinales mêlées aux eaux rituelles. D'autres reposent sur un savoir olfactif entraîné, le nez d'un parfumeur équilibrant résine et fleurs, ou celui d'un meunier, jaugeant la qualité de la farine en la respirant. Les odeurs s'attachent aussi aux matériaux et aux lieux eux-mêmes. L'air fumé, légèrement vanillé et chargé des senteurs de cuir d'une bibliothèque historique, les notes poussiéreuses d'une station de métro, l'odeur de pierre humide d'une église après la pluie, contribue à rendre un lieu reconnaissable et mémorable. Pourtant, ces dimensions sensorielles restent souvent périphériques parce qu'elles sont difficiles à classer, collecter ou archiver. Tournant sensoriel. À la fin des années 1980 et au cours des années 1990, s'est opéré un tournant sensoriel dans les sciences humaines et sociales. L'odorat, longtemps relégué en bas de la hiérarchie sensorielle occidentale, est devenu un objet d'études culturelles et historiques sérieux. Les sciences du patrimoine ont suivi dans les années 2010 avec la mise au point d'un cadre permettant d'identifier et de préserver les odeurs présentant une signification culturelle. C'est de cette période que date le concept de patrimoine olfactif. Car sentir constitue une manière d'appréhender le monde. C'est aussi l'une des formes de mémoire parmi les plus profondément ancrées dans le corps. L'odeur d'un aliment peut à elle seule faire ressurgir une histoire. Pour les communautés issues de diaspora, les senteurs familières entretiennent le lien avec les lieux quittés. L'anosmie, durant la pandémie de COVID-19, a montré à quel point la perte de l'odorat pouvait être déstabilisante. Dans le même temps, la pollution, l'industrialisation et le changement climatique modifient les odeurs des régions et des saisons. Les forêts s'amenuisent, les parfums de certaines plantes disparaissent. Le philosophe de l'environnement australien Glenn Albrecht a qualifié la détresse provoquée par cette transformation de solastalgie, une forme de nostalgie du présent. Une rivière, une forêt ou une ville peuvent encore sembler familières visuellement, tout en ayant perdu l'odeur qu'elles exhalaient autrefois. Encens et résines boisées. De nouvelles méthodes émergent pour documenter et préserver les odeurs. Pour celles qui existent encore, des échantillons d'air peuvent être prélevés à partir d'objets, de bâtiments, de paysages ou de pratiques, puis analysés grâce à des techniques spécifiques qui permettent d'identifier les composés volatiles responsables des odeurs. À ces techniques s'ajoutent souvent des évaluations sensorielles au cours desquelles les participants formés décrivent les qualités de ces senteurs. Ensemble, ces méthodes permettent de créer une archive détaillée et de recréer certains aspects de l'expérience olfactive originale. Pour les odeurs qui n'existent plus, les chercheurs combinent des sources issues des archives et des recettes historiques pour les reconstituer. Grâce à ces recréations scientifiques, on peut raviver des dimensions sensorielles du patrimoine perdu ou menacé. Le projet européen « Odeur au pas » illustre cette démarche à travers la reconstitution de la pomme de senteur du XVIe siècle, une sphère métallique parfumée portée comme bijou et utilisée comme remède. Durant les épidémies de peste, respirer son parfum était censé offrir une protection. On approchait de son nez un bouquet de romarin, de clous de girofle et de civette pour éloigner les odeurs redoutées de maladies. Aujourd'hui, la plupart des pommes de senteur subsistent dans les musées comme des objets inodores. Odeur au pas a recréé leur fragrance à partir de recettes de l'époque. Les senteurs du passé sont parfois imprévisibles. Lorsque les chercheurs du projet Odoteka de l'Université de Ljubljana, Slovénie, ont entrepris la première analyse olfactive systématique de corps momifiés égyptiens avec le musée égyptien du Caire, ils s'attendaient à ce que les restes humains dégagent une odeur de renfermé. Or, les senteurs qui en émanaient rappelaient plutôt l'intérieur d'un temple, des résines boisées, de l'encens et des notes balsamiques sucrées ayant traversé les millénaires. Boîte à outils. L'expérience empirique est au cœur du projet Sensing the Intangible. Mené par l'Institut pour le patrimoine durable de l'University College de Londres, une boîte à outils a été conçue pour permettre aux utilisateurs de décrire les indices sensoriels et corporels avec leurs mots. La première étude de cas concerne l'art campanaire anglais, pratiqué par environ 30 000 sonneurs répartis dans 7 000 clochers. L'odeur métallique du bronze chauffé et de la suie sont parmi les éléments qui sont remontés des témoignages des personnes ayant participé au projet, ainsi que la résonance des cloches, des éléments rarement pris en compte dans les inventaires officiels. Toutes les odeurs ne doivent pas être préservées. L'objectif est de reconnaître la place de l'odorat dans les traditions vivantes, les lieux et les collections avant leur disparition. En janvier prochain, les femmes Bayana verseront de nouveau l'agua de Queiro sur les marches de Bonfim et les senteurs de basilic, de myrrhe et d'encens s'élèveront dans la chaleur de Bahia. Mais si les herbes de la forêt disparaissent, si les jeunes générations délaissent le rituel, ou si les savoirs sensoriels continuent d'être négligés, une partie du patrimoine de Bonfim disparaîtra avec elle. Il en va de même pour d'innombrables odeurs culturellement significatives. Beaucoup restent non documentées malgré la mémoire, l'identité et les connaissances environnementales qu'elles véhiculent. À mesure que ces paysages olfactifs s'effacent, les communautés perdent une part de leur lien au territoire. Certaines formes de patrimoine survivent dans la pierre ou sur le papier. D'autres ne survivent que dans l'atmosphère et dans le souvenir des personnes, à moins qu'on prenne la peine de les ressusciter. C'était Quelle odeur à notre passé? Un texte de Cecilia Bembrib-Jacobo, paru le 7 juillet 2026 dans le courrier de l'UNESCO.
Les métaphores de miroir d'eau. un texte de Richard Rittu, paru le 29 juin 2026 dans la presse. Pour Donald Trump, le détroit de Warm Ooze, W-A-R-M-O-O-Z-E, est devenu aussi embêtant que le détroit d'Ormuz. C'est du moins l'impression qu'il a donnée ces derniers jours en parlant d'un plan d'eau auquel les Américains les plus facétieux ont attribué un surnom fantaisiste. Tout le monde connaît évidemment le détroit d'Ormuz. Sa fermeture par l'Iran a provoqué une flambée des cours du pétrole à l'échelle mondiale après le début de la guerre voulue par le président américain. Le détroit de Hormuz fait référence au majestueux miroir d'eau du National Mall à Washington. À la fin juin 2026, peu après la fin de travaux de rénovation commandés par ce même président, des algues verdâtres l'ont envahi, suscitant un émoi national où l'humour côtoie l'indignation et la paranoïa. L'expression « warm ooze », dont la prononciation se rapproche de celle du mot « Ormuz », sert à décrire l'eau chaude dans laquelle les algues ont proliféré et fait tourner au vert le bassin long de 618 mètres. Adoptée par des commentateurs politiques, des scientifiques amateurs et des complotistes finis, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et le miroir d'eau du National Mall, haut lieu touristique situé entre le Lincoln Memorial et le Washington Monument, est devenu la mère de toutes les métaphores. Les experts? Non, merci. On y voit notamment une façon d'illustrer le refus de Donald Trump d'écouter l'avis des experts avant de se lancer dans un projet d'envergure. Les consultations qui auraient dû précéder les travaux de rénovation annoncés en avril 2026 n'ont pas eu lieu, comme cela a été le cas pour les projets de construction de la salle de bal de la Maison-Blanche et de l'Arc de Triomphe des États-Unis. Donald Trump voulait faire vite pour s'assurer d'avoir un bassin doté d'une eau d'un bleu limpide à temps pour les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis. Et au diable, tous les spécialistes qui le mettaient en garde contre toute précipitation. Le président les a ignorés, comme il a ignoré les experts qui prédisaient la fermeture du détroit d'Ormuz en cas de guerre contre l'Iran. On y voit aussi un exemple de la tendance de Donald Trump au népotisme. Après que le bassin a tourné au vert, les médias ont fait grand cas du nom de l'entreprise dont les services ont été retenus, sans appel d'offres, pour installer un système de filtration de l'eau, Green Water Service. Ils ont aussi souligné que John Cafaro, patron d'un fonds d'investissement qui est le propriétaire en dernier ressort de Green Water Service, est un bon ami de Donald Trump et un criminel condamné ayant plaidé coupable à des accusations d'avoir versé un pot de vin à un élu et d'avoir violé la loi sur le financement électoral dans deux affaires distinctes. Pas sa faute. On voit aussi dans cette histoire la propension de Donald Trump à attribuer aux autres la responsabilité de ses erreurs. À l'origine, les rénovations du miroir d'eau devaient coûter 1,8 million de dollars. La facture s'élève aujourd'hui à plus de 16 millions. Et le bassin devra de nouveau être vidé pour des réparations supplémentaires après les fêtes du 4 juillet. En s'adressant à des journalistes dans le bureau ovale, le président a attribué à des vandales les malheurs du miroir d'eau. Ils ont mis, d'après ce que quelqu'un a dit, de l'engrais dans l'eau, a-t-il déclaré en tentant d'expliquer le retour des algues dans le bassin rénové. Si vous mettez de l'engrais dans l'eau, vous obtenez des algues. Il a aussi accusé un vandale de s'être servi d'un couteau à lame rétractable ou d'un autre objet tranchant pour découper le revêtement du bassin qui a commencé à se décoller. « Je n'y peux rien si quelqu'un entre avec un couteau et se met à tout lacérer », a-t-il déclaré. Et il a mis en cause un de ses prédécesseurs. « Barack Hussein Obama, avez-vous déjà entendu parler de lui ?» a-t-il demandé à un journaliste sur un ton sec. Le rôle de vandale dans les malheurs du miroir d'eau, sujet de nombreuses théories du complot, n'a pas encore été prouvé. 5 individus ont été arrêtés, dont un ex-canoéiste olympique qui jure n'avoir rien fait d'autre que de toucher à un morceau du revêtement qui flottait. L'art de construire. Et Barack Hussein Obama dans tout ça? De 2010 à 2012, son administration a dépensé environ 35 millions de dollars pour rénover le miroir d'eau du National Mall, inauguré en 1922. Comme Donald Trump n'a cessé de le répéter au cours des dernières semaines, cette rénovation, dont il a exagéré le coût, Obama a dépensé plus de 100 millions de dollars, a-t-il dit fin mai, n'a pas réglé les problèmes du bassin. Les algues et les fuites d'eau n'ont pas tardé à sévir de nouveau. Mais le 47e président devait réussir là où Barack Hussein Obama avait échoué, comme pour la santé, comme pour l'économie, comme pour l'Iran. « Je suis très doué pour bâtir et construire des choses », a-t-il déclaré le 15 juin 2026 en se félicitant du succès des travaux de rénovation du miroir d'eau alors même que les algues commençaient à proliférer et le revêtement à se décoller. En temps normal, selon l'endroit où on se place, on voit dans ce miroir d'eau le reflet du Washington Monument, du Lincoln Memorial, des arbres du National Mall ou du ciel. Ces jours-ci, on y voit aussi le reflet de Donald Trump. C'était « Les métaphores de miroir d'eau », un texte de Richard Etu, paru le 29 juin 2026 dans la presse.
Faits essentiels sur l'arthrite. Un texte paru le 7 octobre 2025 dans Virage. Symptômes, diagnostic, gestion de la douleur. Voici 10 faits essentiels pour mieux comprendre cette maladie qui touche des millions de Canadiens et peut affecter leur quotidien, leur mobilité et leur bien-être. 1. L'arthrite touche un grand nombre de Canadiens. Chez les 55 ans et plus, 27 % des personnes ont déjà reçu un diagnostic d'arthrite selon un sondage léger. Chez les 65 ans et plus, ce chiffre atteint 50 % d'après la Société de l'arthrite du Canada. 2. L'arthrite regroupe plus d'une centaine de maladies. Le terme arthrite englobe plus de 100 affections caractérisé par l'inflammation des articulations et parfois d'autres parties du corps. Certaines formes, comme les tendinites et bursites, sont moins sévères, tandis que d'autres, comme la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante, peuvent être invalidantes. Le sondage léger révèle qu'un répondant sur 10 ignore le type d'arthrite dont il souffre, soulignant un manque de sensibilisation. 3. Une maladie sérieuse et chronique. L'arthrite est la maladie chronique la plus répandue au Canada et peut avoir un impact important sur la qualité de vie. Sans traitement, elle peut endommager les articulations et, dans certaines formes inflammatoires plus sévères, toucher la peau, les organes ou d'autres tissus. Ces atteintes entraînent douleur, fatigue, raideur et perte de mobilité. La plupart des formes d'arthrite sont incurables, ce qui signifie qu'il faut apprendre à vivre avec la maladie au quotidien. 4. Détecter tôt la maladie est crucial. Le diagnostic repose sur les antécédents médicaux, l'examen physique et des tests comme les analyses sanguines et les radiographies. Un dépistage précoce limite les dommages et optimise l'efficacité du traitement. Si vous ressentez douleur, raideur ou enflure aux articulations, consultez rapidement votre médecin pour obtenir un diagnostic précis. 5. L'arthrose est la forme la plus répandue. L'arthrose touche plus de Canadiens que toutes les autres formes d'arthrite réunies. Longtemps considérée comme une usure normale, elle est désormais définie dans l'Osteoarthritis Research Society International, OARSI, comme l'incapacité du corps à réparer correctement les tissus articulaires endommagés. Les articulations les plus touchées sont les genoux, les hanches, les mains et la colonne vertébrale. 6. L'arthrite peut toucher presque toutes les articulations. Bien qu'elle affecte surtout les articulations importantes, hanches, genoux, colonne vertébrale, l'arthrite peut aussi toucher les doigts et d'autres articulations moins sollicitées. 7. Facteurs de risque modifiables et non modifiables. L'âge, le sexe et la génétique influencent la probabilité de développer la maladie. Certaines formes touchent plus souvent les femmes ou sont liées à des antécédents familiaux. Mais certains facteurs peuvent être contrôlés. Maintenir un poids santé, rester actif, éviter le tabac, protéger ses articulations et adopter une alimentation équilibrée. 8. L'alimentation peut soutenir la santé des articulations. Une saine alimentation aide à diminuer la douleur et l'inflammation. Par exemple, la nutritionniste Kim Harry suggère de consommer des poissons gras comme le saumon, les sardines, le hareng, les anchois. Il est aussi recommandé de favoriser les grains entiers, de manger une variété de légumineuses comme les edamame, les pois chiches, les lentilles et le tofu, et de privilégier les légumes à feuilles vert foncé, choux frisés, épinards, roquettes, bêtes à cardes. 9. Bouger est essentiel. Tant que la douleur le permet, il est conseillé de continuer à utiliser l'articulation, comme l'explique Philippe de Grandpré, pharmacien et président de la Société québécoise de la douleur. La pratique régulière d'une activité physique renforce et stabilise les articulations, limitant la progression de la maladie et améliorant la qualité de vie. La Société de l'arthrite du Canada propose plusieurs textes et vidéos pour vous offrir des conseils pour vous aider à vous initier à l'activité physique. 10. L'arthrite a un impact économique important. Selon le sondage Léger, 85 % des travailleurs atteints déclarent que l'arthrite limite leur rendement au travail. La maladie coûte actuellement 33 milliards de dollars par année au Canada, un montant appelé à augmenter avec la croissance du nombre de personnes touchées, qui devrait passer de 6 à 9 millions d'ici 2045. Malgré son ampleur, l'arthrite est seulement considérée comme la 7e cause d'invalidité de la population, ce qui retarde l'adoption d'accommodements dans les milieux de travail, plaide la Société canadienne d'arthrite. C'était 10 faits essentiels sur l'arthrite, un texte paru le 7 octobre 2025 dans Virage.